Un pas de plus vers le report des élections provinciales. La nuit dernière, les sénateurs ont voté à l'unanimité la proposition de loi organique qui prévoit de décaler le scrutin jusqu'au 30 novembre 2025. La province Sud devrait supprimer des pans entiers de ses actions. La collectivité a perdu près de 18 milliards de recettes. Et c'est dans ce contexte que se tiendra ce matin le débat d'orientation budgétaire de la collectivité. L'actualité nationale, le recours au 49-3 évoqué en Conseil des ministres. Michel Barnier pourrait y avoir recours pour faire adopter le budget 2025. La priorité reste toutefois au débat. L'incendie de Boulou-Paris maîtrisé mais pas éteint. Les pompiers sont toujours sur place à Huitchambo. 1500 hectares de brousse sont partis en fumée depuis lundi. Au village, un feu s'est déclaré hier soir au niveau de la zone industrielle. Un lotissement a dû être évacué. Le sport, le football et Brest qui impressionnent en Ligue des Champions après leurs 2 victoires en 2 matchs. Les Brestois ont enchaîné avec un match nul face aux champions d'Allemagne. 1-1 contre le Bayer Leverkusen. Lille se déplace en ce moment même sur la pelouse de l'Atlético de Madrid. La météo, temps ensoleillé en particulier sur l'Est pour cet après-midi. Au cours de l'après-midi, des nuages se développent sur les Loyautés et la façade Ouest. Les températures sont bien supérieures au normal de saison, 27 à 30 degrés, voire 31 degrés sur la côte Ouest.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, le vote du report des provinciales au Sénat.
Le scrutin est clos. Votants 343, exprimés 324, pour 324. La proposition de loi organique est adoptée.
Proposition de loi donc adoptée à l'unanimité cette nuit au Sénat, au lendemain de l'avis favorable à une très large majorité des élus du Congrès. Je rappelle, 47 voix pour, une voix contre et 2 abstentions au boulevard Vauban. Abstention et voix contre au sein du groupe UCF-LNKS et nationaliste. Un texte qui prévoit donc d'organiser le scrutin jusqu'au 30 novembre 2025 au plus tard. Une proposition de loi portée par le groupe socialiste au Sénat. Le président du groupe, Patrick Kanner, s'est adressé au ministre des Outre-mer la nuit dernière. Il s'agit aussi de son ancien collègue du Sénat, François-Noël Buffet, en soulignant que ce texte allait permettre de relancer le dialogue, mais qu'il ne s'agissait en aucune manière d'un blanc-seing offert au gouvernement. Écoutez.
La mise à disposition à votre profit de notre proposition de loi organique n'est pas un blanc-seing. Nous n'avons jamais considéré que cette proposition de loi organique était l'alpha et l'oméga de la résolution de la situation sur place. La complexité de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie appelle une réponse globale qui comprend l'avenir institutionnel, dont la nécessaire question du dégel du corps électoral pour les élections provinciales et le Congrès, mais aussi l'urgence de la reconstruction économique et sociale de l'archipel. Monsieur le ministre, après un long déplacement, vous aviez commis un rapport d'information avec messieurs Philippe Bas et Hervé Marseille. Dès le rapport d'étape en juillet 2022, vous préconisiez surtout de ne pas imposer, surtout de ne pas contraindre. Ministre, vous êtes désormais comptable de la situation.
Patrick Kanner, qui met en cause le gouvernement précédent, estime que la concertation doit maintenant se faire la plus large possible. Dans sa réponse, le ministre des Outre-mer a d'abord rappelé que les violences du 13 mai ont aujourd'hui des conséquences économiques et sociales très graves en Nouvelle-Calédonie. Le ministre des Outre-mer a rappelé que le Conseil d'État s'était prononcé pour ce report, mais aussi que le Congrès avait émis un avis favorable et il estime que le temps n'est pas à la campagne électorale, mais bien à la reconstruction et à la recherche d'un accord.
Il faut saluer la décision du Congrès de Nouvelle-Calédonie à confirmer qu'il souhaitait évidemment également ce report. Ce qui constitue une situation tout à fait remarquable, dont on peut interpréter le fait qu'elle s'inscrit aussi dans une logique qui consiste maintenant à s'engager dans un processus de reconstruction immédiate sur le plan matériel et économique, mais aussi de réouvrir la discussion institutionnelle. Nul doute qu'elle doit être réouverte. Nul doute que nous reparlerons de l'ensemble des dossiers. Mais il faut le faire dans un climat apaisé et je le dis tout de go, que je m'inscris en tous les cas dans les conclusions du rapport de 2022. François-Noël Buffet, président de la commission des lois, est en tout point comparable à François-Noël Buffet, ministre des Outre-mer aujourd'hui. C'est aussi une cohérence et de bonne santé, me semble-t-il, que de faire ainsi.
Et le sénateur calédonien Georges Naturel a pris lui aussi la parole pour défendre le report des élections provinciales. Il préférait toutefois qu'elles ne soient pas organisées au 30 novembre. On va écouter Georges Naturel d'ici quelques instants avec ce son donc du Sénat qui nous parvient à l'instant. La prise de parole également du sénateur Robert Rowy pour le groupe communiste République et Territoires et Écologie et Kanaky. Est-ce qu'on a retrouvé donc l'interview? Donc le texte devrait poursuivre son parcours législatif à l'Assemblée nationale. Dans un communiqué, le député Nicolas Metzdorf parle d'une proposition essentielle pour le territoire. Il indique qu'il sera entendu par les rapporteurs du texte, Florent Boudier, président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, et Arthur Delaporte. Et puis j'ajoute qu'après une réunion dédiée à la Nouvelle-Calédonie à l'Élysée, le Sénat a dévoilé les dates de la venue sur le territoire de la mission de concertation et de dialogue. Les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet, seront en Nouvelle-Calédonie du 9 au 14 novembre. La délégation et le programme n'ont pas été dévoilés, mais l'objectif serait de discuter avec les interlocuteurs pour déterminer une feuille de route. La province Sud en séance publique ce matin avec un gros dossier à l'ordre du jour, le débat d'orientation budgétaire. Il va mettre en lumière les conséquences des violences insurrectionnelles qui ont débuté le 13 mai, Elisabeth Noir.
La province est en effet confrontée à une perte de recettes de plus de 30%, soit quelques 18 milliards CFP, et elle va devoir faire des choix difficiles. La collectivité est en effet contrainte de supprimer des pans entiers de ses actions et elle doit envisager des mesures d'économie d'une ampleur inédite. Elle va également devoir réduire de façon drastique son budget d'investissement qui pourrait être divisé par 2, voire par 4. Dans la perspective de ce débat d'orientation budgétaire, la province Sud a commencé à lister des pistes d'économie qu'elle serait conduite à faire si elle ne bénéficie pas de ressources nouvelles. Cela va du gel intégral des postes devenus vacants à la réduction massive des subventions aux associations, en passant par la fermeture de tous les CMS, de tous les internats provinciaux et de tous les parcs provinciaux, par la suppression des bourses scolaires ou encore par la fin du soutien aux opérations d'équipement dans les communes et à la diminution de l'entretien et de la mise en sécurité des routes, des pistes qui seront débattues lors de cette séance publique qui devra examiner une situation fracassée par les émeutes et les exactions.
L'actualité institutionnelle toujours est le gouvernement qui a examiné hier, lors de sa réunion hebdomadaire, un avant-projet de loi du pays comportant plusieurs mesures de soutien à la reprise de l'économie. Un train de mesures qui doit permettre de soutenir l'activité économique tout en rationalisant les dépenses, Jean-François Bodin.
Pour favoriser le pouvoir d'achat des salariés, le gouvernement prévoit ainsi de prolonger jusque fin 2026 l'exonération d'impôt sur le revenu pour les heures supplémentaires. Une mesure censée accorder un gain de pouvoir d'achat tout en incitant à l'augmentation du temps de travail. Le gouvernement prévoit aussi de prolonger l'exonération d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Cette prime est à disposition des employeurs pour leurs salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois le SMG brut et peut atteindre 100 000 francs. Le texte prévoit aussi des mesures en faveur des entreprises et de l'activité économique. Ainsi, le plafond des charges déductibles pour les dépenses relatives aux travaux est augmenté. Jusqu'à présent, le total des dépenses engagées ne pouvait faire l'objet d'une déduction fiscale supérieure à 2 millions de francs. L'avant-projet de loi du pays propose de fixer ce plafond à 5 millions. Le gouvernement veut aussi aider les entreprises qui ont dû temporairement ou définitivement cesser leur activité en raison des exactions. Il propose une mesure d'aide fiscale sous forme d'un amortissement exceptionnel, à l'instar de ce qui avait été fait notamment après le passage du cyclone Erika en 2003. Enfin, le gouvernement prévoit des exonérations fiscales pour les propriétaires d'immeubles victimes de destruction pendant les émeutes, notamment une dispense de contribution foncière.
Le gouvernement qui est par ailleurs obligé d'adapter la loi de 2019 sur l'interdiction de mise sur le marché de divers produits en matière plastique.
Oui, cette loi interdisait d'importer et de mettre à disposition des sacs ou des barquettes en plastique à usage unique pour favoriser l'utilisation de produits en matière compostable ou biosourcée. Mais le gouvernement note, concernant notamment les barquettes en plastique jetable, que l'offre mondiale des produits biosourcés ne permet pas pour le moment de les remplacer. Le coût des produits de remplacement reste par ailleurs supérieur à celui des barquettes en plastique et oblige aussi les industriels calédoniens à adapter leur processus de fabrication, ce qui génère une hausse des coûts de production et donc du prix à l'achat pour le consommateur. Pour toutes ces raisons, le gouvernement propose donc de supprimer les dispositions concernant les interdictions d'importation de produits en matière plastique et sur les barquettes à usage unique destinées à l'emballage des produits alimentaires. Le gouvernement entend repousser leur interdiction de mise sur le marché au 1er mai 2040. Toutefois, le gouvernement pourra interdire par arrêté cette fois-ci l'usage des barquettes avant 2040 si les avancées technologiques sur les produits de substitution le permettent.
Vos rendez-vous sur notre antenne. Vendredi, le conseil d'administration de la CAFAT doit se réunir. Et à cette occasion, Patrick Dupont, qui occupe la présidence tournante de la CAFAT depuis un an maintenant, passera la main à un représentant du monde syndical. Et il sera notre invité ce matin à 7h30 pour évoquer les temps forts de son mandat, marqué par les conséquences des émeutes. L'occasion d'évoquer avec lui les défis à venir. Et puis le plan S2R auquel le gouvernement est en train de mettre la dernière main résulte en grande partie d'une large consultation des acteurs économiques et sociaux. Alors que le plan doit être connu dans le détail dans quelques jours, sont-ils satisfaits du travail accompli? Quelles sont maintenant leurs attentes? Ce sera le sujet des jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu, aujourd'hui à midi. Jean-François Bodin recevra deux représentants du monde syndical, Christophe Coulson, le secrétaire général de l'UTCFE-CGC, et Tony Dupré, vice-président de la COGETRA, et deux représentants d'ENSEECO, Mime Sidélé, la présidente du MEDEF, et Stéphane Youto, élu à la CCI.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est maintenant l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, tout d'abord, et on en parlait dès le début du journal. Après l'avis favorable des élus du Congrès, 85% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS se disent eux aussi satisfaits et favorables du report des élections provinciales à fin novembre 2025. Ils sont 15% à dire qu'ils sont opposés à ce report. Voici maintenant notre question du jour. Êtes-vous favorable à l'autorisation de l'importation des produits en matière plastique et notamment des barquettes, comme le propose le gouvernement? Si vous y êtes favorable, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. L'actualité politique et la question du corps électoral qui suscite des tensions entre les indépendantistes radicaux avec un échange de communiqués entre le collectif de défense de la tribu de Saint-Louis et le président du groupe UCFLNKS et nationaliste du Congrès, Elisabeth Noir.
Pour le collectif de la tribu de Saint-Louis, Eugène Décoré et Johan Wamiton mettent en effet en cause les récentes déclarations de Pierre-Chanel Toutougoro à l'issue de sa rencontre avec le ministre des Outre-mer. Le chef de groupe UCFLNKS au Congrès a en effet affirmé que le dégel du corps électoral n'est pas un sujet prioritaire. Des propos qui suscitent la profonde indignation et la condamnation ferme du collectif de la tribu de Saint-Louis, qui accuse Pierre-Chanel Toutougoro de faire preuve de désinvolture. Pour le collectif, la question du dégel du corps électoral est un sujet central qui ne peut être relégué au rang d'un simple dossier parmi d'autres. Et le collectif met en garde Pierre-Chanel Toutougoro contre toute tentative de réitérer de telles déclarations publiques irresponsables et blessantes dont il ne mesure ni la portée ni les conséquences. Une mise en cause à laquelle a tenu à répondre le chef de groupe UCFLNKS qui regrette que ses propos aient été volontairement tronqués et déformés pour nourrir une polémique dont l'objectif, dit-il, semble davantage de porter atteinte à sa réputation que d'apporter une solution constructive à la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons. Il précise que ses propos ne visent pas à minimiser l'importance de la question du corps électoral, mais à souligner que dans la lutte pour l'indépendance, la priorité absolue pour les indépendantistes responsables reste de parvenir à l'aboutissement de la trajectoire de décolonisation. Extraire mes propos de leur contexte, comme l'a fait ce communiqué, est un exercice mortifère, écrit Pierre-Chanel Toutougoro, qui regrette que cette polémique, basée sur un délire d'interprétation, vienne semer la division à un moment où l'unité est plus que jamais nécessaire. Bref, ambiance entre les indépendantistes les plus radicaux.
Merci Elisabeth Noir. Il est 6h44, on marque une première pause dans ce journal avant de voir la suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et notamment cet incendie à Bouloupari.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Attention, ça y est, la nouvelle station mobile de Magenta ouvre ses portes. Carburant de qualité, boutique, service au top. Et ce n'est pas tout. À partir du mardi 15 octobre, participez à notre grand jeu Machine à soude et votre passage en caisse. Un plein, un achat, vous êtes éligible. À vous de tenter votre chance. À gagner, des bons d'achat en carburant de 10 000 francs et plein de surprises. Ne manquez pas l'ouverture de la station mobile de Magenta et repartez peut-être gagnant. Rendez-vous dès maintenant dans votre nouvelle station. Mobile, toujours à vos côtés.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Maîtrisé mais pas éteint, l'incendie de Bouloupari mobilise les pompiers depuis lundi. Hier soir, ils tentaient de contenir le feu du côté de Huit-Chambolet, Anna Colombo.
Le bilan fait état de plus de 1500 hectares brûlés. Une maison entièrement détruite par les flammes en bordure de la RP4. Des dégâts sur les réseaux d'eau et électrique et un sapeur-pompier du SIVM Sud légèrement blessé ce lundi. À cause du fort vent sur zone, les pompiers ont été un temps sur Bouraquet et puis vers Huit-Chambolet. Ce dernier est retombé en soirée et dans les pompiers à maîtriser l'incendie. Mais un peu plus tard dans la soirée, un nouveau départ de feu a été signalé. Écoutez le capitaine Maël Kerleger, responsable de l'intervention pour le SIVM Sud.
Le feu au niveau de Huit-Chambolet est maîtrisé. Là, on va faire des reconnaissances aériennes avec la caméra thermique pour voir les points chauds qu'il pourrait y avoir en lisière de l'incendie et qui pourraient nous poser problème dans la journée. Cette nuit, on nous a allumé un deuxième départ de feu au niveau de la zone industrielle de Bouloupari qui est venu menacer un lotissement à proximité et qui a nécessité des moyens aussi qui ont été engagés sur ce sinistre-là. Les habitations ont été évacuées et tout le monde a regagné leurs locaux dans la nuit. On a eu des conditions plus favorables durant la nuit avec un temps un peu plus frais que la nuit précédente, avec un vent nul. Et on va poursuivre nos reconnaissances avant de trop se réjouir trop vite, quoi.
Pour rappel, le dispositif Orsec feu de forêt de niveau 2 a été déclenché hier matin par le président du gouvernement.
Et puis 15 hectares partis en fumée à Dimbéa-Rivière. Un incendie volontaire a été signalé hier aux alentours de midi. Une quinzaine de pompiers étaient sur place, aidés de 3 véhicules lourds, un véhicule léger et la sécurité civile. Ils ont circonscrit le feu en 3 heures, qui a principalement brûlé de la végétation de Niaouli. 2 habitations ont été protégées. Une enquête a été ouverte pour retrouver les auteurs de cet incendie. Rassurer les parents, c'était là l'objectif de la réunion tenue hier soir à l'école catholique de Dimbéa-sur-Mer. Mardi, aux alentours de midi, des jeunes ont tenté de caillasser les caméras qui surveillent l'arrière de l'établissement. Par ricochet, 3 enfants avaient été touchés. La directrice de l'école, Marielle Calonnet, a très vite réagi en organisant hier soir une réunion rassemblant la DEC, les représentants de la commune, les forces de l'ordre et bien sûr les parents d'élèves. Une réunion au cours de laquelle les intervenants ont souhaité rassurer les parents et rappeler le rôle de l'école. Marielle Keletaona est directrice adjointe de la DEC.
Notre volonté, en tout cas, c'est que chacun reste bien dans son domaine de compétences. Et ce que l'on a voulu rappeler aux familles, c'est que nous sommes dans une école. Notre mission, c'est l'enseignement et l'éducation. Nous ne sommes pas chargés du côté répression. Après, il y a des services dont c'est le travail. Donc, ils font leur travail et nous continuons d'assurer notre mission. Et puis, rassurer les familles aussi sur le fait que les enfants sont en sécurité au sein de l'établissement.
Juliana Touffelet est trésorière de l'association des parents d'élèves et pour l'APE, il s'agit avant tout d'identifier les jeunes auteurs de ces caillassages pour les inciter à revenir sur les bancs de l'école.
On sait qu'il y a des jeunes qui sont délinquants dans le quartier, mais le problème c'est qu'on a du mal à les cibler, à savoir de quelle tranche d'âge ils appartiennent. Et donc nous, pour pouvoir se fondre dans le quartier, on a besoin que l'école fusionne avec ce quartier, avec les jeunes, pour que ces jeunes-là, délinquants, si on arrive à les ramener dans le droit chemin, puissent eux-mêmes protéger l'école. Lorsqu'ils ont des copains qui veulent casser l'école, ils leur disent « Non, tu ne touches pas l'école », parce que justement, ils donnent une importance à cette école. Et donc, c'est ça qu'on veut faire, l'APE.
Et une réunion à laquelle participait également Gérard Piollet, le premier adjoint au maire de la ville de Dimbéa. Les forces de l'ordre sont également intervenues pour rassurer les familles quant à leur présence. Pour rappel, 2 personnes ont été interpellées par la police municipale. Une enquête est toujours en cours. Je rappelle que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que les élus Génération NC de Dimbéa avaient condamné cet acte. Condamnation également de la province sud qui exprime, je cite, sa profonde préoccupation à la suite des événements qui se sont déroulés aux abords de l'école. Nous exprimons notre soutien aux élèves et aux parents ainsi qu'au personnel pédagogique. S'attaquer à des enfants est d'une lâcheté sans nom. Il est primordial que nos enfants puissent étudier dans un environnement serein et sécurisé. Nous travaillons avec les services de l'État pour que la sécurité aux abords des écoles soit renforcée, a déclaré Sonia Baquès, la présidente de la province sud, dans un communiqué. Il est 6h49, vous écoutez Radio Rythme Bleu, un mot d'actualité nationale juste après la pause avec notamment l'examen du budget 2025.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Les opticiens mutualistes vous proposent des montures de marque classique ou tendance et des verres top qualité de nos verriers Zeiss ou Essilor. Chez les opticiens mutualistes, trouvez au juste prix les montures et les verres qui vous conviennent pour un vrai plaisir de voir. Les opticiens mutualistes à Nouméa, La Foix et Conné.
Du 25 au 27 octobre, la Chambre de métiers et de l'artisanat organise le 33e salon BAT Expo et Plus à la Maison des Artisans. Découvrez les dernières tendances du bâtiment, mais aussi le grand pôle artisanat et de transformation alimentaire. Jouez avec Sorocal et Bluescope pour gagner de superbes lots. Le salon BAT Expo et Plus, c'est du 25 au 27 octobre à la Maison des Artisans et l'entrée est gratuite.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité en métropole, c'est la suite de votre journal. On retrouve Nicolas Legrand.
Et l'utilisation du 49.3 lors de l'examen du budget 2025 évoqué par Emmanuel Macron en Conseil des ministres. En cas d'échec des discussions au Parlement, Michel Barnier pourrait bien avoir recours à un passage sans vote, même si ce n'est pas l'objectif du gouvernement, affirme Maud Bréjon, la porte-parole.
Il a simplement évoqué le fait qu'il était probablement plus... ce ne sont pas ses mots, hein, mais probablement plus facile et plus sain de pouvoir l'utiliser, encore une fois, l'évoquer à titre préventif, mais il ne s'est pas positionné sur le fond. Il a simplement rappelé qu'il revenait au Premier ministre de décider d'en faire usage ou non et de décider le moment de cet usage s'il devait advenir.
À l'Assemblée nationale, les députés ne se font pas d'illusions. En l'absence de majorité, cette nouvelle n'est une surprise pour personne. À l'image de Sandrine Rousseau, la députée de la France Insoumise.
On le savait avant même de commencer la première ligne du texte. Et pour autant, on a un devoir qui est de pousser les amendements, puisque c'est notre mandat, de pousser chaque amendement, de se battre sur chaque amendement. Oui, c'est assez décourageant par moment, ça je vous le cache pas.
Et comme elle, en dépit de 49.3, la grande majorité des députés souhaitent faire adopter le maximum d'amendements dans l'espoir qu'ils soient retenus dans la version finale par Michel Barnier. Manière de mettre la pression sur le Premier ministre qui s'est dit ouvert à la discussion. Pour le député LR Fabien Di Filippo, les débats sont loin d'être inutiles. Ils permettent, selon lui, de clarifier aux yeux des Français les positions de chaque groupe.
Ça finira, je pense, c'est comme ça que ça semble inévitable, vers un 49-3. Mais tout ce qui se passe jusqu'à ce 49-3 doit éveiller les consciences et montrer aux Français qui réellement est capable de défendre leurs intérêts, de défendre le travail et de redresser le pays.
De manière générale, peu nombreux sont les députés qui en veulent à ce gouvernement lucide sur la situation qui limite drastiquement la possibilité d'avoir recours au vote de ce budget. L'actualité internationale en pleine guerre à Gaza et au sud du Liban, Benjamin Netanyahou était l'invité exceptionnel d'Europe 1 et de CNews. Un entretien exclusif diffusé dans l'émission de Laurence Ferrari Punchline. Le Premier ministre israélien rejette toute idée de cessez-le-feu immédiat car son armée mène, selon lui, une guerre de civilisation contre la barbarie. Guerre qu'Israël serait sur le point de remporter, selon lui.
Nous sommes sur plusieurs fronts pour le moment. Nous avons eu des vraies réussites et nous approchons de la victoire. Nous n'accepterons pas d'autres résultats que la victoire. Je l'ai dit et je le redis. Notre guerre, c'est votre guerre. Notre victoire, c'est votre victoire.
Notre victoire et votre victoire.
Lors de cet entretien, Benjamin Netanyahou a également réagi aux propos récents d'Emmanuel Macron qui demande un cessez-le-feu et appelle à arrêter de fournir des armes offensives à Israël. Le Premier ministre israélien s'est dit extrêmement déçu après avoir vu le président prendre des positions qui sont contre leurs intérêts communs. Fin de citation. 6h53, une nouvelle pause dans ce journal avant de voir bien un peu d'actualité en Nouvelle-Calédonie avec notamment la fête de la science puisqu'hier il y avait une grande journée du côté de l'Université de Nouvelle-Calédonie.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Préservez votre habitation contre les termites avec Formula 4D.
Traitement de charpente, piège préventif et barrière chimique.
Déductible de vos impôts. Infos sur formula4d.com.
À vos côtés depuis 40 ans.
RRB, première radio d'information.
La suite d'Info Matin avec le reste de l'actualité sur le territoire. On retrouve Nicolas Legrand.
Avec la fête de la science qui se poursuit jusqu'au 28 octobre sur le territoire. Hier, c'est donc à l'Université de la Nouvelle-Calédonie que les visiteurs pouvaient se rendre avec un programme toujours très diversifié. Des mathématiques à l'astronomie, il y en avait vraiment pour tous les goûts et toutes les curiosités. De quoi ravir les visiteurs venus seuls ou en famille.
J'ai su qu'il y avait la fête de la science. Je pensais que c'était intéressant de venir découvrir des choses de la science qu'on n'a pas forcément appris ou qu'on ne découvre pas tout le temps.
J'ai rencontré une doctorante que je ne connaissais pas, qui m'a parlé de sa thèse, de ses formations. Elle a passé 6 mois au Cambodge. C'est intéressant parce que nous, on a l'habitude de lire des articles, d'être face à des papiers. Donc le fait que ce soit des gens qui nous expliquent, c'est plus intéressant.
Quand même, j'ai bien aimé le truc là-bas, des étoiles.
Qu'est-ce que tu as vu là-bas?
Les constellations.
Comme le scorpion, le pégase, le chasseur.
Et l'après-midi s'est clôturé avec une observation des étoiles et un ciné-débat. Le programme complet de la fête de la science est à retrouver sur le site internet du Crécica. Et puis en marge de cette fête de la science, l'Université de la Nouvelle-Calédonie annonce qu'elle a pris part à la création de l'Académie des sciences du Pacifique, basée à Apia, au Samoa. La présidente de l'UNC, Catherine Rees, est membre du comité qui a mis en place cette nouvelle instance scientifique dans la région. Cette académie a pour ambition de contribuer à porter la voix de la communauté scientifique du Pacifique. Et puis enfin, les élèves du lycée Escoffier se sont essayés à la cuisine indonésienne hier après-midi. Pour célébrer un partenariat entre la France et l'Indonésie, un repas était organisé en présence du consul et du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie.
Un partenariat culturel et éducatif qui prend place en Calédonie, le territoire français le plus proche de l'Indonésie. Le territoire compte d'ailleurs une grosse communauté indonésienne, plus de 4000 personnes. C'est donc un échange qui promet d'être enrichissant, comme l'explique Didier Vindatich, le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie.
Il faut savoir qu'il existe un accord de partenariat cadre entre le ministère de l'Éducation nationale français et le ministère de l'Éducation indonésien et que c'est notre ministère qui nous a demandé de nous rendre dans une session exploratoire l'année dernière en Indonésie pour commencer à jeter les bases d'un partenariat entre nos deux pays.
Ce partenariat permettra des opportunités de formation linguistique et d'insertion professionnelle pour les jeunes calédoniens. En plus de ce repas, les élèves ont réalisé des capsules vidéo en anglais présentant leurs enseignements, leurs pratiques pédagogiques et culinaires, et elles seront ensuite envoyées aux élèves de Jakarta.
Merci Léana Colombo, il est 6h passé de 57 minutes. On marque une dernière pause avant de voir l'essentiel de l'actualité sportive et les prévisions du temps.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Savez-vous qu'un lave-vaisselle utilise de l'énergie surtout pour le chauffage de l'eau et peu pour le moteur de la pompe de vidange ? Les programmes à faible température comme Eco permettent de diminuer en moyenne de 5% la consommation d'électricité.
Retrouvez toutes les astuces Eco-Conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
La suite de votre journal avec le sport, on retrouve Nicolas Legrand.
Et il y a du football ce matin, évidemment, à la une de l'actualité sportive, puisqu'il y a la troisième journée de la Ligue des Champions. Et Brest qui accueillait le champion d'Allemagne, le Bayer Leverkusen. Brest qui impressionne véritablement dans ce début de compétition européenne, puisque les Brestois ont enchaîné deux victoires pour les deux premiers matchs. Et là, ils viennent de faire un match nul. Un but partout, c'est pourtant le Bayer Leverkusen qui avait ouvert le score. Brest est quatrième, donc pour l'instant, du classement. Et puis depuis 6 heures, il y a un autre match qui concerne un club français, puisque Lille est en déplacement sur la pelouse de l'Atlético de Madrid. Et pour le moment, ce sont bien les Espagnols qui mènent 1-0. C'est la mi-temps. Et puis il y a un autre match, et c'est d'ailleurs un choc, entre le FC Barcelone et le Bayern Munich. Barcelone mène 3-1. Là aussi, il s'agit de la mi-temps. Du tennis avec Hugo Humbert qui a été éliminé par David Goffin au deuxième tour de l'ATP 500 de Bâle. Et puis on joue également le premier tour aujourd'hui avec un autre Français qui est engagé dans cette compétition. Il s'agit d'Adrian Manarino qui a été sorti par Stan Wawrinka, le local de l'étape. Ça s'est passé en 3-7, 6-3, 3-6, 7-5.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Alors on va faire un point complet sur la météo avec une mise à jour par rapport au point qu'on a pu faire à 6h tout à l'heure.
Voilà la vigilance que nous avons ce matin pour des orages et des pluies fortes qui a été annulée. Ce matin donc le temps sera bien ensoleillé sur l'ouest, ailleurs des passages nuageux avec quelques ondées. Ce sera sur l'est, l'extrême nord, la pointe sud et l'île des Pins. Aux abords des Loyautés en début de matinée, les averses seront encore parfois fortes et orageuses. Sur l'ouest, de faibles brises sont présentes. Ailleurs, le vent sera orienté à l'est entre 10 et 15 nœuds, parfois un peu plus sur les pointes nord et sud. Cet après-midi, temps ensoleillé en particulier sur l'est. En cours d'après-midi, des nuages se développeront sur les Loyautés et la façade ouest en donnant de bonnes averses par endroits, notamment sur les versants ouest. Le vent évolue peu avec des brises entre 5 et 10 nœuds sur l'ouest, la façade est. Ailleurs, il souffle autour de secteur est autour des 10 à 15 nœuds, parfois plus de 15 nœuds sur les pointes nord et sud. Les températures pour terminer, 27 à 30 degrés, voire 31 degrés sur l'ouest.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir suivi ce journal.